L'apprentissage dans les arsenaux de la marine est institué dès le XVIe siècle pour les métiers de calfat et de charpentier en construction navale. En 1689, Louis XIV réglemente l'apprentissage. Il consiste d'abord à l'encadrement d'un jeune appelé « garçon » par une dizaine d'ouvriers charpentiers ou calfats. La plupart orphelins ou enfants d'ouvriers, ces apprentis acquièrent leur expérience par une longue présence sur les chantiers. Le roi étend la disposition d'un apprenti pour 10 ouvriers à tous les autres corps de métier, voiliers, cordiers, poulieurs, perceurs et scieurs de long. Les centres de formation et d'apprentissage sont créés en 1943. Durant la Seconde Guerre mondiale, la formation des apprentis a été transférée dans les ateliers de la poudrerie de Pont-de-Buis. En 1947, 2 nefs d'ateliers sont construites sur le plateau de Quéliversan. On y ajoute 3 autres en 1979. Le bâtiment définitif de l'école est construit en 1958, le terrain de sport en 1964 et le gymnase en 1985. 2 cursus sont d'abord mis en place en 1970. Un cours normal de 2 ans, dont la finalité est la voie ouvrière. Un cours de 3 ans, le TEPAR, qui conduit à la maîtrise et l'encadrement. Les jeunes filles ont fait leur entrée en 1978. En 2004, le centre ferme définitivement ses portes.
La Grande Maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en
début décembre, je rencontrais au Capucin Noël Jacobin, ancien apprenti à l'Arsenal et auteur d'un livre intitulé « Apprenti toute la vie, arpète à l'Arsenal de Brest de 1962 à 1965 », publié aux éditions Récits. Nous nous concentrions sur ce qui faisait une des particularités de l'Arsenal brestois, les arpètes, son centre de formation.
Je suis rentré à l'Arsenal en 1962 et j'en suis sorti en 2009. Je vous laisse faire le calcul, ça fait de nombreuses années. Pourquoi 1962 ? Je me trouvais à ce moment-là en quatrième à l'école des frères de Lesnevin, une quatrième tout à fait classique qui devait normalement me conduire vers des études supérieures ou du moins vers le lycée. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mon père, à cette époque-là, était gravement malade, suite de guerre, blessé du poumon, comme on l'appelait. On était à 8 dans notre fratrie. À cette époque-là, 8, ma sœur est née, moi j'étais le 3e. Et mon père, sentant quand même ses forces l'abandonner, se sentant partir, donc a décidé que j'allais devenir soutien de famille et que de ce fait, donc, j'allais rentrer à l'Arsenal comme apprenti pour avoir immédiatement donc un métier à la sortie.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie.
Ben voilà donc passant le concours des arpètes en 1962 et je suis reçu. Donc j'ai passé tout normalement les 3 années d'apprentissage, à l'issue donc desquels j'ai acquis le grade, le titre, la fonction, le métier de mécanicien. Mécanicien avec la particularité, une spécialité tourneur.
Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville.
Les épreuves se sont déroulées sur 2 jours à Brest, dans l'enceinte de la base navale, un vendredi après-midi et le samedi matin suivant. Mon père m'accompagnait. En montant dans sa Juva 4 Renault grise, j'ai promis, comme il me l'a demandé, de faire de mon mieux. J'accédais à l'arsenal par la porte Caffarelli, nommée ainsi en l'honneur de Louis-Marie-Joseph Caffarelli, premier préfet maritime de Brest. Mon père avait garé sa voiture au lieu dit Prat-les-Dents. Il a été convenu qu'à l'issue des épreuves, l'on se retrouve à cette même porte que mon père n'a pas eu le droit de franchir. Sécurité oblige. Pour ma part, les dés sont jetés. Aléa, Jacques Taest. Ce qui m'impressionne d'abord, ce sont les grues, il y en a partout. Une forêt d'arbres grutiers, toutes immenses et majestueuses, des grises et des bleus. Je vois des bateaux de guerre, et tout autour, le fourmillement incessant du personnel du port. J'entends des grondements dont je n'arrive pas à percevoir l'origine. Un port de guerre. C'est donc ça. Il y a 3 années, première, deuxième, troisième année, à partir, la première année est commune, et à partir de la 2e année, il y a 3 classes. On est nombreux, on est approximativement une centaine, 90, en les divisant par 3, une trentaine donc d'élèves par classe. Et en 2e année, il y a 2. Il y avait, je dis il y avait parce que ça n'existe plus, mais je parle de mon temps, bien entendu. Il y avait 2 classes de normale, de filière normale, et 1 classe de filière spéciale. Donc la 2AS, la 2AN, année normale, et en 3e année, pareil, 1 année donc de spéciale, la 3AS, 3e année spéciale, et 2 autres classes, donc de 3AN, 3 années normales. Entre la filière S et la filière normale, les meilleures notes. Les meilleures notes, toujours les meilleures notes. Les premiers, toujours. La sélection par les premiers. Donc ceux qui avaient le meilleur bulletin, les meilleures notes, donc, effectivement, allaient donc dans la filière sup, S, et pendant tout l'apprentissage, donc, de cette façon. Et la filière S se caractérisait par un niveau de maths, un niveau de physique, un niveau supérieur donc, et un travail plus d'heures d'école également, et un petit peu moins d'heures de chantier, pas de chantier, mais d'heures d'atelier, de lime, enfin de travaux techniques, de travaux manuels pour préparer son métier de chaudronnerie, de tôlerie. Un petit peu moins d'émulation aussi, parce que bon, la filière spéciale préparer l'école préparatoire, bon, on avait tous envie d'aller à l'école préparatoire, et après on avait tous envie d'aller à l'école technique, donc il y avait cette émulation là qui faisait qu'on est dans la bonne, on est dans le bon train, on est dans la bonne filière là, il faut continuer à travailler et puis on arrivera, je pense qu'en normal, après bon en normal, il y a peut-être moins cette émulation là d'accéder aux écoles préparatoires et aux écoles techniques, mais je dis ça peut venir. Par la suite, rien n'est jamais perdu. Parce qu'on rentre, bon, il y a 700, 800 qui rentrent, enfin, qui passent le concours, qui rentrent à l'arsenal pour passer le concours, et on en prend 100. Bon, parmi ceux qui sont retenus, les 100, j'estime que c'est à peu près le même niveau scolaire, les mêmes capacités scolaires. Ceux qui changent par la suite, bon, c'est peut-être personnel ce que je dis là, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais ceux qui changent, entre 2 personnes, c'est le travail personnel. Un travaillera plus, l'autre travaillera moins, et ça se fera sentir dans les résultats. Un aura peut-être plus d'ambition, l'autre aura un petit peu moins. Celui qui travaille plus, ben c'est qu'il a peut-être plus d'ambition. La différence se situe simplement là, mais pas en capacité intellectuelle ni autre.
Vous étiez en filière normale ou spéciale du coup ?
Spéciale.
D'accord.
J'étais en filière spéciale depuis la... la 2e année, donc la 2AS, 3AS, filière spéciale. Un exercice nous prépare au travail de la scie à métaux sur un bloc d'acier dans lequel, au préalable, une saignée a été réalisée sur toute sa longueur. Lame de scie, denture en haut, nous simulons durant des heures, avec les bons gestes, la coupe de ce bloc. La technique idéale requiert d'utiliser toute la longueur de la lame en maintenant un appui constant durant la phase aller et sans appui et plus rapide dans la phase retour. Cette technique simple garantit une grande endurance pour l'opérateur, une bonne durée pour la lame et un travail efficace. Il était beaucoup plus facile pour quelqu'un de la filière spéciale d'accéder immédiatement aux écoles préparatoires, aux 2 années d'école préparatoire, aux écoles techniques. Ceux de la filière normale, rien n'était perdu pour eux, absolument pas. Mais il fallait que par un travail personnel, ils se remettent à niveau, donc au fur et à mesure, et en 2 ou 3 ans, ils pouvaient acquérir donc le niveau qui leur permettrait d'accéder aux écoles préparatoires d'abord et aux écoles techniques donc ensuite. Et les matières principales, c'était surtout donc les maths et la physique. Bon, moi, je préférais le français, mais bon, mais maths et physique, il fallait absolument être bon. Et également le dessin industriel, très important, le dessin industriel. En école préparatoire, on avait le droit, c'était permis, bon, pas recommandé, mais permis quand même, d'échouer. J'ai échoué en première année d'école préparatoire, j'ai été remis sur le travail, ça m'a fait le plus grand bien, permis d'accéder à des connaissances que je n'avais pas dans le milieu ouvrier, la camaraderie, le syndicat, tout ça, ça m'a ouvert les yeux. Et à l'issue, j'ai travaillé, continué à étudier, et ça m'a permis après de réaccéder par le concours externe aux écoles préparatoires et de continuer. À tout moment, quelqu'un de motivé pouvait accéder à des postes de cadre. Mais ceux qui jouaient à l'école technique, donc de Pont-à-Nézène, qui avaient le droit de passer le concours 3 fois, au bout de 3 fois, ceux-là donc se tournaient vers la filière professionnelle, donc dessinateur, préparateur, vers le métier de technicien, de TSO, ce qui était une carrière très très intéressante également. TSO. De ma promotion, donc de 90, on a fait un petit compte là. Bon, un bon nombre donc sont allés à l'école préparatoire puis à l'école technique. Un bon nombre également sont allés aux écoles préparatoires et ensuite ont fait les études de technicien, de TSO. D'autres, non, ne sont pas allés à l'école préparatoire, mais étant sur les chantiers, ont acquis des connaissances telles, ou une habileté telle, ou une valeur de servir telle, qu'ils ont été nommés chefs d'équipe. Et de ma promotion, je pense que toute la promotion, il y a soit des ingénieurs, des cadres techniques, des techniciens et des chefs d'équipe. Donc à être resté au niveau ouvrier, je n'en connais pas. Peut-être un, mais je n'en connais pas. Et certains également ont quitté. Mais il y a peut-être 3 ou 4 qui ont quitté et pour faire donc des carrières comme notre camarade, si j'ose dire, Jo Le Maire, donc PDG, le président directeur général de la Sermeta. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight.
Nous réalisions cette interview à l'étage des Capucins, sur la passerelle dont le nom est inscrit sur une des poutres métalliques, le passage des Arpètes.
Le passage des Arpètes, il a été nommé comme ça. Il n'y a pas de rapport avec le bâtiment qui est ici. Les Arpètes se trouvaient sur le plateau bien plus haut, sur le plateau de Quéliverzan. Mais c'est assez amusant d'avoir fait un passage des Arpètes. Voilà, c'est sans doute... sans doute un petit peu une allusion au centre d'apprentissage où, en effet, des Arpètes, des apprentis, venaient visiter. Là, j'ai visité ça quand j'étais apprenti, j'ai visité tout le secteur, les tours, la fonderie, j'ai visité également l'atelier électricité juste un petit peu plus haut, j'ai visité la chaudronnerie, et les Arpètes ont peut-être laissé un petit souvenir ici, c'est la raison, mais ils n'ont jamais exercé ni travaillé, donc ici, au moins pendant l'apprentissage. Il y avait approximativement la moitié en... cours donc théoriques, les cours qui étaient surtout des cours donc d'algèbre, cours de géométrie, cours de dessin. Ensuite il y avait les cours de physique, donc voilà les matières scientifiques. Après il y avait la technologie et il y avait le français. Voilà donc les cours théoriques. Et ils représentaient une bonne moitié, plus de la moitié donc des heures passées donc à l'Arsenal. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, on commençait à 8 heures du matin. Moi, je me levais donc tous les jours vers 6 heures et quart pour prendre le car. Donc, il passait au Folgoat, j'habitais le Folgoat, pour prendre le car. Donc, il passait à 7 heures moins le quart. Bon, je prenais bien souvent le car au bon. Et heureusement que j'arrivais à courir pas plus vite que le car, mais à le rattraper au bout de la place. À cette période, les cars ouvriers ne sont pas encore équipés de postes de radio. Les trois choses autorisées dans le car sont la cigarette qui crée un brouillard pestilentiel, la lecture du télégramme de l'Ouest France et Radio Potin de l'Arsenal, c'est-à-dire des informations de l'artillerie navale en particulier, colportées de l'avant à l'arrière du car, puis renvoyé en sens inverse, enrichi de commentaires. Et il arrivait à Brest vers 7h30. 7h30, le temps de monter au plateau de Quilly-Vierzan, le temps de monter aux apprentis et de s'habiller. Si on allait à l'atelier, il était 8h. Et on restait jusqu'à midi et demi. Midi et demi, généralement, il y avait une séance d'atelier de 2 heures et deux séances de cours, un cours de français ou un cours de maths, et entrecoupé par une petite récréation d'un quart d'heure. D'ailleurs, c'est là d'ailleurs, pour mon malheur, que j'ai appris à fumer. On apprend à fumer en l'espace d'un mois, mais après, il faut bien une dizaine d'années pour s'en défaire, mais je m'en suis défait. Et il y avait également donc les cours de sport, 2 séances dans la semaine. Donc, autrement dit, on coupe en deux, moitié atelier sport et moitié cours théorique. Les séances de sport se déroulent sur un petit terrain en cendré et une salle de gymnastique attenante, située à flanc de falaise sur un petit plateau au niveau de l'actuel GESMA. Un autre espace sportif, constitué en son milieu d'un magnifique terrain de foot, a été construit en 1964, près des bâtiments de l'école. Un moniteur de sport est affecté à chaque année d'apprentissage. À raison de 4 heures par semaine durant ces 3 années, le sport tient une place importante dans notre formation. Je me souviens surtout de ces ténébreux lundis matins d'hiver. Dès 8 heures, dans la nuit fraîche et humide, on se rend en file indienne dans la salle pour la première séance de la semaine. Et après le sport, le réconfort, nous allons sous la douche, chacun dans une cabine. Je n'ose pas le dire, mais ma première vraie douche chaude, c'est à l'Arsenal que je l'ai prise après le sport, sous le contrôle inquisiteur de l'instructeur qui veille aussi à notre apprentissage de la propreté corporelle. Il faut que l'eau fasse entendre, avant de couler sur le sol, ce bruit un peu sourd sur le corps. Sinon, le moniteur appelle à l'ordre les récalcitrants du robinet à l'odeur du chacal de brousse. Sous la douche ! J'ai dit sous la douche, et non à côté.
Et ça me fait juste penser, du coup, vous aviez des vacances ou pas, du coup vous
avez... C'est tout un programme, les vacances. On avait toutes les vacances, un petit peu plus courtes peut-être que les autres, quand il s'agissait des vacances de Noël, de Pâques, de Toussaint. C'était un petit peu différent, mais on avait des vacances. Et l'été, alors, c'était la grande joie. L'été, les vacances se passaient en deux parties. Nous avions les SPA en un mois, les stages plein air, suivis après des véritables vacances à la maison, un mois et demi. Donc, deux mois et demi de vacances, dont un mois de stage, mais qui était donc dans des endroits de découverte avec les moniteurs qui nous encadraient à l'atelier. Ben, nous sommes allés en première année, nous sommes allés à Kellern. C'est toute une histoire, il faudra que je vous raconte ça un jour. Kellern, c'est tout un programme. Ensuite, en deuxième année, nous allions faire du voilier. J'ai appris à tirer sur le bout. Hé, matelot, tire sur le bout, disait donc l'amiral qui nous servait de professeur. De mer, classe de mer. Et là, c'était à Traon-Liors, à Plougastel. Nous avons appris le canoë-kayak à Châteauneuf-du-Fou, le canoë-kayak. Et nous sommes allés également à l'île de Bas. Là, c'était le Farniente, en deuxième année, la baignade. Et en troisième année, nous faisions tout le tour pendant un mois de l'Auvergne, toutes les villes d'Auvergne. Le Puy-de-Dôme, Aurillac, Châtel-Guyon, et j'en passe. Et on campait dans des tentes, donc bien sûr, un camp que l'on montait, tous les Bords-les-Orgues aussi, tous les 2-3 jours. Nous avons circulé toute l'Auvergne. Je connais depuis cette époque-là l'Auvergne, donc c'était en 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 65, 65, 66, pardon, 31 ans. 65, troisième année, mais 66. Et donc je me souviens bien de toutes les villes que nous avons parcourues, de tous les camarades, de tout ce que nous avons fait. Vraiment, week-end, vacances, un mois de découverte.
Et c'était pour tous les élèves au mois de juillet.
C'était tous les élèves au mois de juillet. On faisait admiration d'ailleurs des gens qui nous regardaient, tous au pas. Bien, on se faisait un plaisir, donc même après 10, 12 km de marche avec le sac à dos, de tenir bien droit, de chanter fort et haut et d'essayer même d'être au pas toujours pour suivre la cadence qui était donnée donc par le moniteur en tête de notre petite joyeuse troupe, Kellern. Ah, des bons souvenirs, Kellern. Tout ce qui en fait Kellern, voilà. Kellern, voilà. Par exemple, je mets le retour de Kellern. Malgré la marche, l'ambiance est excellente au cours de ces randonnées. Les moniteurs nous accordent parfois de petites sorties dans les bourgs et tapent de vrais moments d'évasion, même si parfois ils doivent élever le timbre de leur voix pour nous faire entrer dans la basse-cour. Ces camps sont aussi appréciés de nos moniteurs. Ce ne sont pas des vacances totales, mais leur travail est quand même bien plus agréable que dans le centre d'apprentissage. Ils se font un devoir de bien cuisiner et passe beaucoup de temps à élaborer de bonnes recettes pour midi. Dans la batterie de cuisine, il y a même le matériel nécessaire, pensez donc, à la préparation des frites. À Kellern, c'était un bâtiment militaire qui formait les commandos marines, qui formait les fusiliers marins. C'était un camp où tout était fait pour justement les militaires. Par exemple, bon, les lavabos, bon, c'était des grands lavabos, des longs lavabos, avec beaucoup d'eau froide et peu d'eau chaude. On ne dormait pas dans des lits, on dormait dans des hamacs, des hamacs. Et c'était... Keller n'était pas un camp militaire, non, mais on avait tous la même chemisette kaki pour ne pas distinguer les uns des autres, tous kaki. Et puis, il fallait une discipline, parce que on se retrouvait donc à toute la promotion, c'est-à-dire à 80 donc dans le camp. Bon, il faut quand même une discipline, il faut pas, bon, pour des affaires de sécurité, bon, il faut quand même de l'ordre et des types, c'est-à-dire qu'on faisait les lits, on faisait la vaisselle, on faisait la cuisine, on faisait la propreté du camp, on vivait en autarcie. Mais qui vivent en autarcie, et pour bien nous montrer effectivement un petit peu les valeurs de la République, les valeurs des choses, bon, après tout, c'était l'État qui nous envoyait, l'État, bon, l'État nous payer ces camps-là, c'était des vacances. Bon, il fallait bien qu'en retour, on se montrait un petit peu digne de faire partie de l'État. D'où les couleurs, l'envoyer des couleurs le matin, le drapeau, c'était très bien. Donc deux camarades levaient toujours le drapeau et le soir, on le baissait. On était là en train de faire les programmes et tout. On distribuait le courrier. Et pour que les moniteurs puissent exercer leur discipline, il fallait bien que nous, on se taise. Et d'ailleurs, je me souviens bien aussi, il y avait une petite chanson, par exemple, un camarade, un ami, un apprenti, un arpète arrivait en retard. On était tous alignés, et puis on voyait dans les rangs, il manquait quelqu'un. Donc on attendait toujours, et puis attendait. Et dès qu'il arrivait, il y avait une petite chanson que les moniteurs nous avaient apprise, bien sûr, et que l'on devait entonner dès qu'il arrivait. C'était ceci, je vais essayer. Traîne, traîne, traîne donc, c'est la chanson, c'est la limace. Traîne, traîne, traîne donc, c'est la chanson du limaçon qui traîne. Alors là, quand la personne qui était en retard, le camarade, l'ami, l'arpète arrivait en retard et avait eu droit à cette ovation un petit peu originale, je peux vous assurer que ça faisait réfléchir non seulement lui-même, mais tous les autres. Moi, je n'ai jamais eu droit à cette loge. Je ne l'ai entendu que deux fois, simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis, il fallait qu'il se justifie. Et bien sûr, la punition, c'était une corvée de vaisselle, une fois de plus, ou bien chambrée, une fois de plus. Bon, c'était une punition gentille, ce n'était pas méchant, mais ça montrait quand même qu'il fallait respecter les horaires, tout le monde. Si c'était 8 heures, c'était 8 heures. Le camp se termine par un magnifique spectacle mettant en scène les apprentis et les moniteurs. Nous l'avions préparé avec beaucoup de sérieux. Il est tout simplement olympien. Et pour ma part, j'ai interprété une chanson de Johnny Hallyday, Souvenir, souvenir. Puis après un rappel unanime de mes camarades, les Argentiers, j'ai eu le droit d'interpréter encore Les bras en croix de Johnny Hallyday. Et dans la foulée, la fameuse chanson à laquelle je n'ai jamais rien compris, il s'agit du Dadou Ronron. Merci.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
La semaine prochaine, nous retrouverons à nouveau Noël Jacopin pour un second épisode basé sur son livre Apprenti toute la vie. Il sera principalement question alors d'ascenseur social et de transmission de savoir.
On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.